ce matin en Beauce.
Mon prochain invité est le porte-parole du regroupement québécois des résidences pour aînés, M. Yves Desjardins. Bonjour, M. Desjardins.
Bonjour, M. Cloutier.
Vous allez bien?
Ah, c'est effrayant. Vous?
Ben, je m'attendais pas à cette réponse-là de votre part, parce que j'ai l'impression qu'hier, ça a été un ramassis de mauvaises nouvelles pour vous autres.
Ben écoutez, avant, non, moi je pense pas tout de suite, là. C'est certain que ça secoue. Mais moi je trouve écoutez, c'est une bonne nouvelle. Il faut ramener du monde dans là, on n'est pas dans un débat privé, public. On l'a vu, là, la pandémie a mis en lumière beaucoup de choses, notamment de prendre soin de nos aînés, ça prend des gens, ça prend des humains. On a de la difficulté, on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est vrai également du côté du public. Il faut être plus séduisant, attirer les gens, donner de meilleures conditions de travail. Le premier ministre a fait une annonce qui, moi, en tout cas, dans un premier temps, me réjouit, mais disons, il faut attirer des gens. Maintenant, je vous partage mon inquiétude parce qu'il ne faudrait pas non plus là déshabiller Pierre pour habiller Paul, là.
Parce que là, je sais pas, c'est quoi là, en moyenne le salaire d'un préposé ou d'une préposée aux bénéficiaires dans des résidences pour personnes le type de résidence que vous représentez?
Oui, M. Cloutier, ça varie d'une région à l'autre, là, mais disons qu'on peut s'entendre sur environ 13,5 $ de l'heure pour un préposé en résidence.
Ils vont juste à suivre des cours. Je regardais ça hier, là. Juste à suivre des cours, ça va durer pendant 3 mois. On va leur payer 760 $ par semaine. C'est plus que ce que gagnent vos préposés aux bénéficiaires en moyenne dans vos résidences.
Effectivement, ce sont une belle offre, mais ça risque de nous faire mal. Comme je dis, là, moi, je veux voir parce que je sais que le gouvernement connaît la situation là, et on ne va pas faire cette offre-là et laisser tomber tout le réseau des résidences pour aînés. Parce que vous savez, si les résidences pour aînés ne sont pas là, le réseau de la santé va avoir des difficultés à prendre soin de tous ces aînés-là. Là. Alors, on fait partie aussi de la solution. Maintenant, l'annonce qui a été faite hier est pour les CHSLD publics. On va voir, on a des discussions avec le gouvernement, on va voir comment la suite des choses va se passer.
Il y a plusieurs de vos résidences qui ont des conventions collectives. Quand va revenir la négociation des prochaines conventions collectives, vous n'allez pas peur qu'on essaie de s'accoter avec ce que le gouvernement paye aux préposés?
Ah, écoutez, ça va faire partie des négociations. Chaque résidence, en fait, il y en a 240 résidences sur 1750 là, qui sont syndiquées. Donc, chacune des résidences, c'est une convention collective en soi. Et chaque propriétaire là, verra à négocier les conditions de travail avec les employés de cette résidence-là.
Bon, est-ce qu'il y a eu des cas de COVID ou des morts à cause de la COVID-19 dans vos résidences?
Bien sûr, il y en a. On peut le voir sur le tableau que publie le gouvernement quotidiennement. Maintenant, le tableau ne dit pas tout. On l'a un peu dénoncé. C'est qu'en fait, il y a des gens qui étaient à l'hôpital au moment du décès, mais comme leur adresse domiciliaire est la résidence, on attribue le décès à la résidence. Okay. Là, on ne fera pas du petit point là-dessus. Mais il y a également des résidences qui ont une portion de ressources intermédiaires. Donc, c'est des gens à plus grande perte d'autonomie. Et encore là, c'est technique, là, mais ça peut être plus du côté des ressources intermédiaires que de la résidence. Mais globalement, là, oui, il y en a eu, mais très, très peu.
Vous avez également des lits conventionnés, j'imagine, dans vos résidences.
Il y a toutes sortes d'ententes, dépendamment des régions, dépendamment de la clientèle et de l'offre de service de la résidence. Alors, il peut y avoir différentes formes d'ententes, effectivement. On sait que avant la crise, M. Cloutier, il manquait 3 000. En fait, il y avait 3 000 personnes qui étaient en attente d'une place en CHSLD et environ 3 000 qui étaient en attente d'une place en ressources intermédiaires. Ces gens-là sont en quelque part. Maintenant, il y a des ententes pour héberger temporairement des personnes en attente d'une place, des personnes qui requièrent beaucoup plus de soins. Mais toutes ces empreintes-là sont différentes d'une région à l'autre, d'une résidence. Ça dépend de son offre de service, du temps qu'elle va la garder, son niveau de soins requis. Alors, il y a plusieurs critères, mais oui, il y a des... dans notre langage, on dit un achat de place.
Dites-moi, s'il advenait que le gouvernement, finalement, rende ça officiel, là, et qu'on arrive au mois de septembre et qu'on puisse dire, voilà, il y a le salaire qu'on donne aux préposés aux bénéficiaires est de l'ordre de 49 000 $ par année. Lorsque vos employés, vos préposés aux bénéficiaires vont travailler, vont s'occuper de gens qui sont sur des lits conventionnés, est-ce qu'on va les payer au même salaire que le public?
Ben, tout ça reste en discussion. Nous verrons, comme je disais, l'évolution de la situation. Une chose est sûre, M. Cloutier, si rien n'est fait pour les résidences pour aînés, déjà, il y en avait plus de 500 qui ont fermé leurs portes dans les 5 dernières années. Et je peux vous dire qu'il y en a encore beaucoup qui vont fermer leurs portes. Si rien n'est fait, on ne pourra pas suivre la cadence avec une différence de salaire là, de l'ordre de 60 ou 70 %. On risque de perdre tous nos employés. Et si on n'a pas d'employés, là, on n'est rien. Une résidence pour aînés, c'est d'abord des services à la personne. Donc, c'est d'abord nos employés. C'est la force d'une résidence, c'est la force de notre réseau. Alors, si on perd nos employés, ben que voulez-vous? Les résidences vont devoir fermer leurs portes.
Il y a un autre coup qui vous est tombé dessus, c'est celui des assurances. Les assurances sont devenues, jusqu'à ne pas renouveler certaines assurances de vos résidences, du fait qu'ils craignent des poursuites, des recours collectifs à cause de la COVID-19. Comment ça va se passer, tout ça? Une résidence est obligée d'être assurée, me semble.
Absolument. Et on parle pas de l'assurance feu et vol, là, c'est pas là qui est le problème. Là. Vous savez, l'assurance pour l'immeuble et tout ça va. Bien que les primes aient augmenté, mais c'est un autre débat. On parle de l'assurance responsabilité. Effectivement, c'est confirmé, les assureurs craignent des poursuites. Donc, il y a des assureurs qui, présentement, se retirent, excusez l'expression, mais se retirent du marché des résidences pour aînés. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On est en discussion avec des assurances, avec le Bureau d'assurance du Canada, avec le gouvernement également, parce que on ne peut pas laisser les résidences pour aînés sans assurance responsabilité. Alors, nous sommes au cœur de cet enjeu-là, qui est important, vous avez raison, mais encore une fois, on va travailler à essayer de trouver des solutions parce qu'il faut maintenir un niveau d'assurance responsabilité pour les propriétaires de résidences pour aînés.
Si vous n'avez pas d'assurance responsabilité, est-ce qu'on peut vous annuler votre accréditation?
Ben théoriquement, bien sûr, on doit respecter l'ensemble des règles de la certification qui est émise par le gouvernement. Et cette assurance responsabilité fait partie des règles. On doit détenir une police d'assurance. Alors, si on n'a pas d'assurance, on contrevient automatiquement au règlement sur la certification et théoriquement, une résidence pourrait perdre sa certification.
Il y a des groupes de bénéficiaires qui, semble-t-il, s'apprêtent à poursuivre, justement, du fait qu'ils se plaignent qu'ils n'ont pas eu les services pendant cette crise de COVID-19, les services pour lesquels ils avaient payé. On peut penser, entre autres, au nettoyage des chambres. Il y en a peut-être d'autres également. Est-ce que ça vous inquiète?
Ben, en fait, nous, on a recommandé à nos membres de respecter la loi et c'est très clair. Lorsqu'un service n'est pas rendu, un service qui est nommément au bail de location, il doit y avoir une réduction de loyer équivalent au coût du service qui n'est pas rendu. Alors, si par exemple, M. Cloutier, vous avez un loyer dans un immeuble locatif régulier et également, il y a un montant supplémentaire pour le garage. Et ce garage est fermé pour une période X. Ben, à ce moment-là, vous n'avez pas à payer pour le service qui n'est pas disponible. Alors, c'est toujours la même chose. Si on parle, par exemple, d'entretien ménager de l'unité de location, de l'appartement d'un aîné, c'est force majeure, mais en même temps, le service n'a pas été rendu. Donc, clairement, le propriétaire doit réduire le loyer.
Donc, théoriquement, il ne devrait pas y avoir tant de poursuites que ça, là.
Ben, écoutez, on le sait jamais. Puis la situation, il y en a actuellement, là, mais on est plus au niveau des CHSLD. Maintenant, écoutez, on va voir. Il se peut qu'il y ait des demandes. Moi, j'aime toujours mieux qu'on puisse s'entendre. C'est l'objet même d'un bail, hein. C'est un contrat entre deux parties. Que les gens puissent s'entendre pour trouver des moyens que ce soit équitable. Et l'aîné, c'est pas de la faute à personne. On a une situation difficile. En même temps, on reconnaît là que l'aîné n'a pas payé pour des services qui ne sont pas rendus.
Est-ce que vous ne croyez pas que, parce que ça a été innovateur, là, l'arrivée de ces nombreuses résidences pour personnes âgées, autonomes en particulier, les gens se disaient, pourquoi je m'occuperais d'entretenir ma maison, ma résidence, je vais vendre tout ça, je vais aller dans une résidence qui va m'offrir les services de repas, les services de nettoyage, l'infirmière qui va être sur place et tout ça. Est-ce que, et là c'est devenu très populaire et un très fort pourcentage, en tout cas, on a vu ça en Beauce, très fort pourcentage de gens qui arrivaient à la retraite qui disaient, ben moi, ça y est, je m'en vais dans ce type de résidence-là, puis je vais arrêter de peinturer la maison, puis de faire la pelouse et tout ça. Les grands avantages sont là, mais est-ce que la COVID-19, voyant ce que ça fait que d'être confiné, pas d'être confiné, mais d'être regroupé plusieurs personnes ensemble dans un même espace, que ça puisse pas, à un moment donné, avec la COVID qu'on a connue, dire « Oh, là, je vais faire attention avant de me débarrasser de ma maison.
» C'est certain que ça va avoir un impact. On planche déjà sur la relance de notre industrie. On comprend là toute la difficulté. En même temps, c'est un virus qui provoquait chez les personnes plus âgées des conséquences graves. Donc, toute la clientèle âgée était plus à risque. Il y a une concentration de gens âgés dans nos résidences pour aînés. Tout ça a fait qu'on a été confinés, mais dans le fond, c'était pour assurer la sécurité. On peut le voir de deux façons. On peut dire on a été enfermés, on était restreints dans notre liberté, mais en même temps, on peut dire, Dieu merci, nous avons été protégés de ce virus. Parce que ceux qui l'ont vécu, on a eu des décès, il y a des gens qui ont été malades. Je peux vous dire que c'est loin d'être drôle. Donc, il va falloir relancer l'industrie et placer les choses en perspective aussi. Puis, il y a quand même beaucoup d'avantages. C'est une situation exceptionnelle, disons-le. Hein, je pense pas que personne n'avait vécu ça précédemment. Donc, on va devoir relancer notre industrie, mais aussi faire valoir tous ces bons côtés de vivre en résidence pour aînés.
Merci beaucoup, M. Desjardins, de nous avoir parlé ce matin. Et on verra bien la suite des choses, mais pour l'instant, vous ne serez pas capable de... Vous êtes David, vous avez Goliath là, au niveau des salaires.
Exactement. Mais... comme on dit, on est fait fort, on va travailler avec le gouvernement, on va trouver des solutions, il faut maintenir les résidences pour aînés. Vous savez, il y a 140 000 aînés qui vivent en résidence, là. On peut pas fermer ça demain matin. Il faut trouver une solution. Comme on dit, ça va bien aller. Moi, j'ai toujours confiance, je reste optimiste, puis j'aime mieux travailler sur des solutions que de m'asseoir et de dire qu'il n'y a rien à faire.
Rappelons aux gens que David a battu Goliath avec une fronde.
C'est un bon point, M. Cloutier.
Merci beaucoup, M. Desjardins.
Toujours un plaisir.
Bonne journée. Au revoir. Au revoir.